Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Le 28 juillet prochain, si tout va bien, le Pérou procédera à l'investiture de son nouveau président. Le deuxième tour des élections a eu lieu le 6 juin dernier. Et à l'heure où nous parlons, la contestation des résultats fait que le Tribunal national électoral n'a pas encore officialisé la victoire de Pedro Castillo. Mais malgré les protestations du camp adverse, le candidat de la gauche radicale péruvienne semble bien l'avoir emporté. Ce qui nous permettra de nous pencher sur son programme et à travers ce programme de décrire en détail l'état de l'économie péruvienne. Une économie qui a connu 30 ans de croissance avant que tout ou presque ne s'effondre avec la pandémie de Covid-19. La crise économique a fait voler en éclats l'apparente réussite du pays et a mis en lumière les failles béantes de son modèle de croissance et de développement. Alors que s'est-il passé pendant 30 ans? Quelles ont été les recettes appliquées par les différents gouvernements? Quel rôle pour les exportations de minerais dont le Pérou est un très grand producteur? La croissance a-t-elle permis de réduire la pauvreté et de combler les inégalités? Et quel a été l'impact exact de la pandémie? Voilà quelques-unes des questions qui seront soulevées au cours de cette émission et auxquelles répondront les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Javier Herrera.
Bonjour.
Javier Herrera, vous êtes franco-péruvien, économiste, directeur de recherche à l'Institut français de recherche pour le développement que vous représentez au Pérou. Je précise que vous connaissez bien l'Afrique également, puisque vous avez longtemps travaillé au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, entre autres. Avec vous en studio, à vos côtés, Marie-Esther Lacuisse, bonjour.
Bonjour.
Marie-Esther Lacuisse, vous êtes chercheuse associée à l'IEAL CREDA, le Centre de Recherche et de Documentation des Amériques. Vous collaborez également à l'OPALC, l'Observatoire Politique d'Amérique Latine et des Caraïbes, dont nous recevons le directeur exécutif également. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, tous signés de la correspondante de RFI au Pérou, Viloène Munoz-Boileau, qui nous entraînera dans la région minière de Caramarca, dans les quartiers des Hérités de Lima, et au plus près du candidat Pedro Castillo. Javier Herrera, je me tourne vers vous d'abord. Il y a quelques jours encore, vous étiez à Lima, au Pérou. Quel était le niveau d'activité économique dans la capitale péruvienne? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous comme situation?
Bon, la crise de la pandémie a touché plus durement la capitale, plus que toute autre région du pays. Les revenus ont chuté de 20% actuellement. Les revenus du travail en particulier, dû à l'arrêt des activités. Les niveaux de pauvreté a doublé. Actuellement, les niveaux de pauvreté à Lima est similaire à celle de la Sierra urbaine, chose qui était impensable il y a quelques années.
Qu'est-ce qu'on appelle la Sierra urbaine ?
Toutes les grandes villes ou les villes moyennes des Andes.
Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas la géographie du Pérou que c'est un pays qui est divisé en trois zones. Il y a la côte, il y a les Andes et puis il y a la forêt amazonienne, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Donc, les grandes poches de pauvreté, historiquement, c'est plutôt les zones andines?
Les zones andines au sud, justement là où Castillo a obtenu les plus des votes.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lima? Qu'est-ce que sont ces zones urbaines andines dont vous nous parlez?
Les zones andines, disons, c'est plutôt la partie centrale aussi.
Du Pérou.
Mais aussi dans l'Amazonie et également la ville d'Iquito, ça a également fortement souffert. Mais c'est surtout à Lima où les niveaux de pauvreté étaient relativement bas et aussi où les stratégies de lutte contre la pauvreté n'étaient pas du tout centrées sur la pauvreté urbaine. Elles étaient centrées sur la pauvreté rurale qui autrefois était très très élevé, et là beaucoup diminué. Donc on a laissé les quartiers pauvres de Lima, surtout la partie externe périphérique de Lima, avec relativement des niveaux, des poches de pauvreté assez importantes.
Alors on va partir tout de suite sur le terrain, voir ce qui se passe. Selon des chiffres officiels, la pandémie a plongé plus de 3 millions de Péruviens supplémentaires dans la pauvreté. Résultat, un tiers de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, avec moins de $100 par mois. Et ce sont les Limaniens, comme vous le disiez, Javier Herrera, qui sont les plus touchés par cette dégradation. Le taux de pauvreté est passé de 14% avant la pandémie, à presque 28, ce sont les chiffres que vous nous donniez quasiment, des milliers de familles peinent désormais à se nourrir et se sont ainsi retrouvées à fréquenter les soupes populaires, dont le nombre a explosé ces derniers mois, notamment en périphérie de Lima. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Vilo en Munoz Boileau, dans un de ces quartiers pauvres de Lima.
Comme tous les matins, Jenny Quintana et ses voisines s'activent dans cette cuisine improvisée située dans le quartier populaire de Villa María del Triunfo, dans la banlieue sud de Lima. L'hiver dernier, ces mères de famille ont créé leur soupe populaire qu'elles ont baptisée « L'Union fait la force ». Elles préparent une centaine de repas par jour qu'elles distribuent aux habitants du quartier frappés par le coronavirus et la faim.
Ici, la deuxième vague du coronavirus a été plus forte que la première. Des familles entières se sont contaminées et il y a eu plus de morts. Des mères se sont retrouvées seules avec leurs enfants et des enfants se sont trouvés orphelins. Il y a quelques mois, des voisins sont venus me demander de l'aide pour pouvoir manger. Au début, je partageais ce que m'envoyait ma famille qui vit en province. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari qu'il fallait faire quelque chose.
Jenny convoque alors ses voisines pour leur demander un coup de main. Ensemble, elles commencent à cuisiner au feu de bois, dans la rue, avant qu'une habitante leur propose de leur prêter son local vide. Une baraque en bois couverte de tôle, mais avec un accès à l'eau, où elles ont installé une casinière et une table en bois directement sur la terre battue. Depuis, tous les matins, à tour de rôle, Jenny et ses voisines s'activent autour de grandes casseroles fumantes. Vers midi, une longue file d'attente se forme devant la porte du local. Ce sont des familles qui avaient réussi à sortir de la pauvreté ces dernières années grâce à des emplois précaires, mais qui ont rebasculé dans la misère en raison des restrictions sanitaires.
Avec la pandémie, mon mari a perdu son emploi. Il travaillait dans le BTP, mais du jour au lendemain, tous les chantiers ont été paralysés et il s'est retrouvé sans emploi.
L'économie péruvienne a en effet été mise à l'arrêt pendant 3 mois et demi l'an dernier et de nombreux secteurs peinent à redémarrer. Or, l'assurance chômage n'existe pas au Pérou et 7 travailleurs sur 10 sont informels. Ils exercent dans des conditions précaires, sans contrat de travail ni protection sociale. Pour de nombreuses familles, le repas distribué ici est souvent le seul de la journée, comme le reconnaît Eva Jara, qui vient de récupérer 2 boîtes remplies de pâte au pesto.
Je viens ici tous les midis car j'ai 5 bouches à nourrir. J'ai perdu mon travail quand j'ai eu le Covid et mon mari ne travaille que de temps en temps. Donc je suis obligée de venir ici. Et quand il me reste de l'argent l'après-midi, j'achète de quoi dîner.
Chaque bénéficiaire contribue à hauteur de 30 centimes par repas, mais certains n'ont même pas de quoi payer cela. Heureusement, Jenny et son équipe peuvent compter sur une certaine solidarité.
On s'approvisionne surtout dans les marchés de gros de la capitale, qui nous font des dons tous les jours. Et quand il manque quelque chose, on contribue chacune un peu financièrement. Mais de la municipalité, on n'a reçu aucune aide.
Des milliers d'initiatives comme celle-ci ont vu le jour ces derniers mois à Lima. Officiellement, il existe aujourd'hui près de 2000 soupes populaires qui approvisionnent environ 250 000 personnes dans la capitale. Mais les chiffres réels sont certainement bien plus élevés. Et ce, alors que le Pérou avait annoncé en avril dernier le plan de soutien économique le plus ambitieux d'Amérique latine. En effet, le gouvernement prévoyait d'investir 12% du PIB dans la lutte contre la pandémie, notamment à travers des aides aux ménages les plus vulnérables. Des aides dont beaucoup n'ont jamais bénéficié, comme l'explique Alain Saint-Andreux, sociologue et membre du groupe de travail sur la sécurité alimentaire de la municipalité de Lima.
De nombreux Péruviens n'ont jamais reçu ces aides, car en tant que travailleurs informels ou nouveaux pauvres, ils ne figurent sur aucun registre. À cela s'ajoutent d'autres problèmes, comme la corruption. Quand le gouvernement a distribué les premiers paniers alimentaires, par exemple, le contrôleur général de la République a identifié 9000 fonctionnaires qui s'étaient appropriés ces paniers indûment.
Pour résoudre cette crise, la présidente du Parlement, Mirta Vázquez, vient de présenter un projet de loi pour que le pays se déclare en situation d'urgence alimentaire.
L'objectif est double. D'une part, que l'État reconnaisse qu'il y a une partie de la population qui vit dans l'insécurité alimentaire. Et d'autre part, répondre à ce besoin rapidement en assignant un budget adéquat, en mettant en place un nouveau programme de politique publique.
Selon le Programme alimentaire mondial, 4,5 millions de Péruviens sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire.
Insécurité alimentaire, dans ce reportage de Vilohen Munoz Boileau, Marie-Esther Lacuisse, c'est une situation qui vous surprend ?
La situation est assez aggravée, mais elle n'est pas si surprenante, dans le sens où il y a énormément d'écarts au Pérou depuis justement 20 ans qui se sont créés entre une macroéconomie parfaite qui correspond aux critères de balance des paiements, mais derrière des inégalités importantes. Alors, entre rural et urbain, comme a pu l'expliquer mon collègue précédemment, mais aussi des inégalités sur l'accès justement à l'alimentation qui était déjà existante, puisque tout est centralisé au Pérou. Ça, c'est une question qui est importante. Les marchés sont centralisés sur Lima. Donc, quand on fait du terrain, on peut voir des femmes ou des hommes qui prennent le bus 24 heures pour aller vendre leurs produits à Lima ou pour en ramener en province. Donc, à partir du moment où les communications sont coupées par une pandémie, forcément, au-delà de la crise financière, il y a aussi les problèmes d'accès à l'alimentation.
À l'alimentation, première nécessité. Gaspard Estrada, comment estimer la gravité de la crise économique que vit actuellement le Pérou?
Bon, je pense que le reportage est très clair. Il y a des problèmes graves d'alimentation. Et au-delà, une détresse sociale. On ne peut pas expliquer le résultat des élections il y a quelques semaines si on ne prend pas en compte la mesure de la problématique sociale, politique que vit aussi le pays. Il ne faut pas oublier que durant la mandature qui vient de s'achever, il y a 4 présidents de la République qui se sont succédés. C'est-à-dire que c'est un pays qui vit en crise politique.
Permanente.
Voilà. Une crise qui s'est aggravée à la suite de succession de scandales de corruption. Mais là, on a aussi ce facteur économique qui est venu chambouler cette instabilité politique et qui a mis à nu, comme vous l'avez dit en introduction, cette situation où, d'une part, les principaux indicateurs sont au vert, y compris malgré cette pandémie, puisque aujourd'hui, le Pérou à un ratio de dette PIB qui est inférieur à 40%.
Un ratio de dette PIB, c'est la proportion de dette par rapport au produit intérieur brut.
Voilà. Absolument. Mais qui, c'est-à-dire même par rapport aux voisins latino-américains, mais y compris par rapport à l'Europe, aux États-Unis, est quelque chose d'assez extraordinaire. Cela étant dit, cela ne permet pas pour autant au Pérou de aller non seulement de pouvoir emprunter de l'argent, mais aussi le distribuer. Et c'est là où on voit bien les carences de l'État péruvien qui est incapable d'avoir une base de données, comme l'expliquait votre reportage, fiable pour pouvoir savoir où distribuer ces aides et de pouvoir les acheminer très concrètement. Et c'est ce qu'expliquait Marie-Esther Lacuisse.
Javier Herrera, quel a été le modèle de développement de l'économie péruvienne ces dernières décennies?
Disons que c'est un modèle économique qui part d'une constitution, la constitution de 93 de Fujimori et père, et dans laquelle l'État devait jouer un rôle subsidiaire. Subsidiaire par rapport à l'éducation, par rapport à la santé. Et on s'est retrouvé au moment de la pandémie avec une situation où il manquait l'essentiel, il manquait l'oxygène, il y avait des queues dans les hôpitaux et les gens étaient obligés de se fournir à titre privé une bouteille d'oxygène coûtait presque l'équivalent des 800 euros, qui est largement supérieur aux revenus des ménages. Mais ce que la crise a révélé aussi, c'est qu'en fait, au-delà de la chute très importante de la pauvreté monétaire, il y avait aussi une sorte de mirage, puisque la population vulnérable était d'environ un tiers. Un tiers de la population était...
D'ailleurs, la chute de la pauvreté monétaire, c'est ce qui s'est passé pendant ces dernières décennies, c'est ça?
Exactement. Donc, on a chuté, c'était spectaculaire. C'est les pays au monde dans lesquels la pauvreté était réduite le plus. On était à 58% en 2004. On est descendu à 20%.
De pauvres.
Des pauvres, pourcentage des pauvres. Cependant, en 2020, on a fait un bond de 10 points pratiquement. Et ce qui nous a ramené 10 ans en arrière par rapport à la diminution de la pauvreté. Mais en même temps, on a montré qu'il y avait un tiers de la population également en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire avec fort risque de chuter dans la pauvreté.
C'est ce que explique Gaspard Estrada, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les chiffres macroéconomiques qu'on peut présenter à la Banque mondiale, au FMI, etc., et puis la réalité que vit la population, Marie-Esther Lacuisse. Comment s'expliquent ces bons chiffres officiels, enfin?
Ces bons chiffres officiels et surtout la politique qu'il y a eu depuis 1993, donc lors la nouvelle constitution qui a été mise en place par la seconde présidence de Fujimori, était expliquée par rapport à la crise antérieure, puisque le Pérou était un des derniers pays d'Amérique latine finalement à appliquer ce qu'on appelle les recettes néolibérales suite à une crise importante. C'était le pays qui a eu le plus d'inflation en Amérique latine dans les années 80 et il y avait encore une volonté de mettre en place des politiques publiques. Et il y a eu dans les années 80 des politiques publiques, notamment à l'égard des paysans au Pérou, avec des crédits à 0% pour les aider. Et donc, suite à cette crise conduit à une inflation et une corruption très importantes. Des règles néolibérales ont été mises de façon très stricte et sont devenues en fait vraiment un plan de relance suite à une crise économique, mais aussi politique à l'époque, puisqu'il y avait aussi le conflit. Donc du coup, elles ont pu...
Le conflit dont vous parlez, c'est le conflit... avec le sentier lumineux.
Oui, tout à fait. Conflit avec le sentier lumineux.
Avec la guérilla maoïste du sentier lumineux.
Tout à fait. Vous avez raison de le préciser. Et à cela s'est ajoutée donc une crise économique dans un contexte de libéralisation d'économie et le Pérou qui tentait de résister à ces nouvelles recettes. Donc voilà, quand ça a été mis en place, c'était mis en place de façon stricte et comme une recette par rapport à un État complètement en crise. Et donc l'exportation est devenue le maître mot. Récupérer l'exportation sur l'agriculture que le Pérou avait perdu. Donc voilà, tout est tourné vers l'extérieur. Et finalement, tout ce qui est politique intérieure, ce qui est condition de vie de la population, est un élément qui a été négligé.
Javier Herrera, vous confirmez ce que dit Marie-Esther Lacuisse? C'est un pays qui a été tout entier tourné vers l'exportation de ce qu'il produisait?
Oui, en effet. Donc le Pérou est un pays qui dépend beaucoup des prix des matières primaires, pour les meilleurs et pour les pires, je dirais. On a vécu justement une période de boom assez important au moment des super cycles des prix des matières primaires, en particulier des métaux. Ces prix ont stagné, donc du coup, la réduction de la pauvreté a diminué. Et le Pérou s'est retrouvé dans une situation paradoxale, en fait. C'est le pays qui, à la fois, comme on vient de dire, a eu les plans les plus ambitieux des relances par rapport à la crise du Covid, avec les pourcentages très importants des ressources qui étaient dédiées, en théorie, je dirais, à l'aide, et en même temps a eu les pires résultats au monde de la pandémie. Actuellement, le Pérou est le pays qui a les taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde.
On en est à 190 000 morts.
Ouais. Exactement. Et donc, on a corrigé ces chiffres récemment. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qui vient de dire Gaspard, c'est-à-dire que cette incapacité de l'État à mettre en place une politique d'aide aux ménages, en même temps qu'on leur obligeait de rester chez eux, relève de deux facteurs. D'une part, cette incapacité de l'État à agir, parce qu'il n'a pas les instruments. Donc on a cité les cas des registres des personnes à qui on pouvait transférer de l'argent, des bonus. Mais en même temps, il y a eu une insuffisance peu ambitieuse, en fait, par rapport à la Colombie et au Chili. La Colombie a distribué 10 bonus. Le Chili a distribué 4 bonus plus 1, la classe moyenne. Le Pérou a distribué 2 bonus.
Et vous dites 2 bonus, c'est par habitant?
C'est par ménage.
Et
donc c'était assez insuffisant, ça qui va aller à peu près au coût d'un panier d'alimentation pour un seul mois. Or, la pandémie et les confinements ont duré plusieurs mois. Et donc, on constate donc une défaillance de l'État, une défaillance qui est liée aussi à la corruption, comme on vient de dire également, dans la distribution des paniers de consommation. Mais le secteur privé a pris les relais. Quand je dis secteur privé, c'est les propres ménages qui se sont auto-organisés pour les ollières communistes, mais aussi l'Église.
Les ollières communistes, c'est les soupes populaires.
Exactement.
Auquel le reportage de Villorène. Oui,
mais l'Église aussi a participé avec l'initiative Respira Pérou, justement, qui a apporté l'oxygène à l'intérieur du pays, qui était une région oubliée de l'État. Et c'est en partie ce qui explique, comme dit Gaspard également, les votes Castillo.
Alors, on va venir dans quelques instants au programme de Pedro Castillo. Marie-Esther Lacuisse, vous avez juste évoqué en passant les capacités exportatrices du Pérou sur les produits agricoles. On va tout à l'heure, bien sûr, parler des exportations minières qui sont très importantes. Mais je voudrais qu'on évoque ces exportations agricoles parce que dans les supermarchés en France, on peut trouver des asperges qui viennent du Pérou. On trouve des mangues sur les marchés. On trouve plein de produits agricoles. Est-ce que c'est un secteur important pour l'économie péruvienne?
Alors, le secteur minier reste plus important, puisque ça correspond, pour me donner juste une échelle, c'est 60% des exportations, donc c'est très important. Ouais. Les exportations agricoles sont très spécifiques, vous venez de le dire, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de produits, mais c'est la mangue, ça va être l'avocat, ça va être l'asperge, ça va aussi être les niches sur les cafés de dite qualité, notamment avec le commerce équitable, c'est aussi ça fait partie de l'économie. Cette économie exportatrice est surtout située sur la côte péruvienne. Il y a eu beaucoup de travaux en géographie justement qui ont été faits sur cette recomposition de l'exportation agricole. Et vous avez en termes d'emploi aussi, l'agriculture c'est aussi plus de 4 000, enfin à différentes échelles, entre ouvriers et petits propriétaires. C'est 4 millions d'emplois au Pérou, selon des chiffres de la FAO. Donc c'est un secteur important, mais la majorité, oui, part à l'exportation.
Mais ce sont des emplois qui sont sur la côte, dans des exploitations qui sont destinées à l'export? Ou est-ce que dans ces 4 millions, vous comptez les populations andines, enfin des paysans de la Sierra?
C'est l'emploi en général. Donc aussi bien le petit producteur qui va cultiver ses patates en Sierra. Et vous avez aussi sur la côte différents modèles. Vous avez les ouvriers pour les grandes entreprises, mais aussi des associations en fait de producteurs qui vont s'associer. Enfin, qui sont plus ou moins rachetés par les entreprises pour leurs terres. Donc là, ça correspond une diversité d'emplois liés au secteur agricole.
On va aller parler du programme de Pedro Castillo, mais Gaspar Estrada, on a évoqué rapidement tout à l'heure aussi les problèmes de corruption dans la distribution de l'aide alimentaire, mais c'est un phénomène beaucoup plus large au Pérou.
Alors oui, c'est pas non plus un phénomène exclusif au Pérou. L'Amérique latine est connue, en tout cas. Ces dernières années, on a vu un peu une explosion de l'agenda et de la présence, en fait, de la corruption dans le débat public latino-américain. Et le Pérou a été quand même un pays qui a été le plus touché par cette multiplication, en fait, de scandales de corruption et notamment de cette méga opération, l'opération Lava Jato, qui a eu donc un impact extrêmement important sur la vie politique au Brésil. Et le Pérou a été le deuxième pays le plus touché avec je dirais l'ensemble des anciens présidents impliqués d'une manière ou de l'autre dans cette opération. Donc, c'est vrai que la corruption fait partie structurante du débat public. La question pour moi est de savoir quels sont les mécanismes pour, je ne sais pas s'y mettre fin, mais en tout cas réduire ce fléau. Et de ce point de vue-là, les résultats ne sont pas probants, puisque si on voit bien ce qui se passe au Pérou, malgré la succession d'opérations de lutte anticorruption, malgré toutes ces mises en examen, aujourd'hui, je ne pense pas que le Pérou soit moins corrompu qu'hier. Et c'est vrai que la question qui, pour moi, est la question de fond, c'est-à-dire la question de l'État péruvien, de son fonctionnement, de son organisation, c'est la question qui se pose. Et quels peuvent être les instruments de l'État pour mettre fin à cette corruption, mais aussi pour répondre aux besoins des populations et finalement la place qui a été accordée à l'État dans cette constitution de 93, qui est une place subsidiaire, comme cela a été rappelé, et qui, à mon sens, devrait être le vrai enjeu du débat.
Alors, on va en venir au programme de Pedro Castillo. Peut-être s'attaquera-t-il à ses problèmes de corruption. Cet instituteur originaire des Andes est un mystère. Il se présente toujours coiffé d'un chapeau de paille blanc à large bord, typique de la région de Cajamarca, dont il est originaire. Il s'est présenté sous la bannière Pérou Libre, un parti marxiste-léniniste à la feuille de route anti-libérale. Son programme prévoit notamment de nationaliser les entreprises qui exploitent les ressources stratégiques, donc minières bien sûr. Bien qu'il ait modéré ses propos ces dernières semaines, Pedro Castillo reste très vague sur la politique qu'il mettrait en œuvre sur le plan économique. Allons voir ce qu'il en est avec ce nouveau reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Vilhoen Munoz Boileau.
La columna vertebrale de notre gouvernement sera la nouvelle constitution politique du Pérou.
Changer la constitution pour changer de modèle économique afin de favoriser l'intérêt public et non plus les intérêts privés. C'est ce qu'on pouvait lire dans le programme de Pedro Castillo et ça a été l'argument phare de sa campagne. Cet instituteur provincial s'est présenté comme le candidat du peuple en quête de changement par opposition à son adversaire, la candidate de la droite Keiko Fujimori, qui incarne, elle, l'élite limenienne et a défendu bec et ongles la constitution actuelle qui a gravé dans le marbre le modèle économique néolibéral. Pour renforcer cette opposition, Pedro Castillo a qualifié la campagne électorale de lutte des classes et de compétition entre riches et pauvres. Une rhétorique qui a fait écho au sentiment d'injustice et d'abandon des plus défavorisés, notamment dans les zones minières du pays qui ont voté à plus de 80% pour lui. Car si l'industrie minière est la principale activité économique du Pérou, elle est aussi la principale source de conflits et ne profite que très peu aux populations locales. C'est donc à ces populations que Pedro Castillo s'est adressé pendant la campagne en promettant d'en finir avec les multinationales, comme lors de ce meeting le 19 mars à Espina.
Les multinationales ont leurs heures comptées.
Puis il est revenu sur ses déclarations en modérant son propos lors d'une interview à la télévision péruvienne le 25 avril.
Les entreprises étrangères seront les bienvenues, mais avec des règles claires. Nous allons renégocier les contrats avec les multinationales.
Concrètement, dans le secteur minier, par exemple, Castillo propose de créer un nouvel impôt, comme l'explique César Flores, économiste et membre de l'ONG péruvienne Cooperación.
La principale proposition de Pedro Castillo, c'est de créer un impôt sur les plus-values minières quand les prix s'envolent et seulement dans ces moments-là. Actuellement, par exemple, le prix du cuivre a atteint un niveau historique, il n'a jamais été aussi élevé. C'est un discours qu'on entend aussi dans d'autres pays, comme au Chili, et cela a déjà été mis en place, notamment en Australie.
Avec cet argent, Pedro Castillo compte notamment investir massivement dans l'éducation et la santé, deux secteurs auxquels il veut consacrer 10% du PIB. Pendant toute la campagne, sa rivale Keiko Fujimori l'a accusé d'être un chaviste qui voulait faire du Pérou un second Venezuela. Pourtant, certains analystes estiment que ses propositions rappellent plutôt les politiques menées par Rafael Correa en Équateur et Evo Morales en Bolivie, qui ont donné à l'État un rôle régulateur dans l'économie. Pour répondre aux inquiétudes des acteurs financiers et économiques, les conseillers de Pedro Castillo, comme l'économiste Pedro Franque, multiplient les interventions dans les médias.
Lo que hay es...
Il n'y aura pas d'expropriation, pas d'étatisation et on ne saisira pas les propriétés et l'épargne des particuliers. Et on va respecter l'autonomie de la Banque centrale du Pérou car elle a fait du bon travail en garantissant une faible inflation.
Ce dernier a également déclaré qu'ils excluaient le recours à des mesures interventionnistes telles que le contrôle des prix et des importations. Pedro Castillo, quant à lui, a précisé au lendemain du second tour que son gouvernement garantira la stabilité financière et économique du pays. Mais en l'absence de programmes clairs et de mesures précises, nombreux sont ceux qui en doutent.
C'était un reportage signé Vilhoen Munoz-Boileau dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI où, vous l'aurez compris, nous parlons de la situation économique au Pérou avec trois invités, Javier Herrera, économiste et directeur de recherche à l'IRD, Marie-Esther Lacuisse, chercheuse associée à l'IAL CREDA et avec Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPALC à Sciences Po. Javier Herrera, il a le couteau entre les dents, Pedro Castillo, c'est un grand méchant qui va exproprier les multinationales ou est-ce que c'est juste un discours électoraliste et sa politique sera plus modérée en fait?
En réalité, il y a deux candidats, Castillo de la première phase et Castillo de la deuxième phase. Castillo de la première phase, il a adhéré au parti et avec l'idéario qui avait été proposé par Vladimir Cerrón, qui était le fondateur de ce parti.
De ce parti, Pérou Libre.
Pérou Libre. Et quand on lit la première version de l'idéario, il est...
L'idéario, c'est le plan de programme programmatique. Voilà.
Qui a été déposé auprès du Jurado National d'Elecciones. Et on lit, il y a plein d'allusions au socialisme et ayant le Venezuela comme un modèle. Cependant, il y a eu deuxième tour, et avant ce deuxième tour, il y a eu l'alliance avec Verónica Mendoza, avec les partis Juntos, où précisément des personnes comme Pedro Franque, qui est un professionnel économiste réputé, il a à la fois une réputation académique, mais aussi une expérience dans la fonction publique, il a démenti la contre-campagne qui avait été faite par la droite conservatrice à propos du contrôle des prix, à propos des expropriations, à propos des confiscations de l'épargne. Donc ça, c'est un nouveau programme, je dirais, qui n'a rien à voir pratiquement avec les premiers programmes qui avaient été déposés par le parti Pérou Libre.
Marie-Esther Lacuisse, c'est un programme réaliste, ce programme économique de Castillo, selon vous?
Selon moi, non. Il y a vraiment deux versions. Il y a la première version du programme qui est celui de Pérou Libre, écrit par Cerrón, qui est donc le président de Pérou Libre, qui est le parti qui a hébergé la candidature de Castillo, c'est important à préciser. Il n'était pas affilié au parti au début, Castillo, et qui est très radical, puisque dans ce programme, il est bien noté qu'il souhaiterait passer de 30% de taxes aux entreprises minières à 70%. Donc ça, c'est la première version. Et dans la seconde, les lignes restent floues. Donc il a été précisé qu'il n'y ait pas d'expropriation. En revanche, sur les mesures concrètes, on ne sait pas encore. Ce qui est important quand même à souligner dans ce programme, c'est cette volonté de mettre en place des politiques redistributives, et notamment par rapport à la santé et à l'éducation, qui ont été les deux secteurs délaissés par les politiques néolibérales des deux dernières décennies, qui a mis l'entreprise privée au cœur. Parce que la Constitution de 93, c'est l'entreprise privée et le MEF, donc le ministère de l'Économie et des Finances, avec toute une technocratie pour mettre en place des politiques liées aux investissements. Donc la politique redistributive est très peu présente au Pérou. Et pour donner un exemple concret, à partir justement des bassins miniers, les bassins miniers ont des budgets supérieurs puisqu'ils touchent une partie des taxes sur les entreprises minières. C'est 50%, c'est ce qu'on appelle le canon minero. Mais les autres provinces qui n'ont pas d'extraction minière, par exemple, ne vont absolument pas toucher d'argent à partir de l'extraction minière. Donc il va y avoir des inégalités entre régions. Et après cela, pour mettre en place des investissements publics, il faut repasser par le MEF qui va accréditer le projet local.
Le MEF, c'est le ministère de l'économie et des finances. Ce que je ne jargonnons pas trop.
Voilà. Donc c'est cette volonté de redistribution et de finalement prendre les impôts et faire une politique nationale avec des politiques publiques qui soient mises en place à l'échelle du pays, notamment pour tout ce qui est éducation, développement local, est un point important. Comment ça va être mis en œuvre ? Là, il y a quand même beaucoup d'interrogations, puisque comme il a déjà été dit, il y a un premier programme et un second discours après le premier tour. Et là, il y a des zones qu'on ne peut pas éclaircir à l'heure actuelle.
Gaspard Estrada, moi je suis un vieux crocodile, donc je me souviens que dans les années 80, il y a eu un président qui s'appelait Alan Garcia, qui avait déjà fait des promesses, en particulier de ne pas rembourser la dette extérieure du Pérou, et puis ça s'était assez mal terminé, et très mal pour lui, puisque bien des années après, bon, il s'est tiré une balle dans la tête. Est-ce que Pedro Castillo, c'est un espèce de même romantisme, je dirais pas révolutionnaire, mais est-ce que c'est la vieille gauche latino-américaine ou est-ce que c'est une gauche plus moderne ?
Moi, je pense que c'est quand même des profils très différents. Alan Garcia Pedro Castillo. Tout d'abord, les origines de Pedro Castillo qui sont beaucoup plus modestes. C'est vraiment un instituteur de province, d'une école primaire, qui d'ailleurs revendique. D'ailleurs, ça a fait partie en fait de son image. Et c'est pour ça, il me semble que il y a eu un tel soutien à sa candidature dans les provinces les plus reculées. Alan Garcia, c'est quelqu'un quand même qui a tout à fait une autre trajectoire, beaucoup plus, c'est quelqu'un qui de Lima, avec un profil très différent. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même des trajectoires différentes. Cela étant dit, moi, la question que je me pose, c'est plutôt la nature de cette alliance entre d'une part Pedro Castillo et d'autre part tout un milieu de gauche aussi, mais qui est beaucoup plus, disons, connecté avec le monde et qui est incarné par la figure d'une autre ancienne candidate, Verónica Mendoza, qui a incarné toute l'équipe de technocrates dont Monsieur Frank fait partie et qui aujourd'hui veulent donner de la crédibilité, que ce soit devant l'élite des milieux d'affaires au Pérou, mais aussi dans le monde. Et la question est de savoir s'il s'agit là d'une alliance de circonstances où Pedro Castillo va effectivement donner des postes dans son futur gouvernement et fera une alliance gouvernementale avec ces secteurs. Et je pense que c'est la vraie question et c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui.
Javier Herrera, vous en pensez quoi ?
Mais je pense que quand on lit, ou quand on a écouté plutôt dans le débat présidentiel la candidate Fujimori, on constate qu'il y a eu une pluie de promesses, des promesses d'accroître les transferts aux ménages, doubler les nombres des bénéficiaires, donner 10 000 soles, l'équivalent d'à peu près 2 500 euros à chacune des familles qui avaient perdu un membre à cause du Covid, donner 40% du canon. Quand on lit l'ensemble de ses promesses, et quand on calcule quel est le coût fiscal des 17 milliards de soles par rapport aux moyens de financement en même temps qui ont diminué les impôts.
Ça, c'est le programme de Keiko Fujimori.
Donc, on aurait dit, au contraire, les programmes Keiko étaient beaucoup plus, entre guillemets, populistes, alors que dans le programme initial, il n'y a pas un seul mot sur la pauvreté. Pas un seul mot. C'est après, dans la deuxième version, avec l'alliance avec Verónica Mendoza, qu'il y a différents sûr, des politiques, notamment en termes de santé, d'éducation, mais aussi, par exemple, dans l'accès au gaz, qui était un des gaz naturels, qui était l'un des problèmes, justement, centraux dans la Sierra Sur, où la population voit passer, pour ainsi dire, les ressources des gaz qui sont destinées à l'exportation, alors que la population péruvienne pourrait bénéficier à bas coût, justement, de cette source d'énergie qui n'est pas aussi polluante que l'autre. Et donc, dans l'équipe de Castillo, il y a des personnes extrêmement qualifiées, notamment Humberto Campodónico, ex-président de Petroperú, un grand connaisseur aussi de toutes les questions d'énergie au Pérou. Et on retrouve dans le programme deuxième version toute une section sur précisément l'accès au gaz naturel pour les ménages en bénéfice des ménages péruviens et pas destiné à l'exportation. Et c'est cette renégociation des contrats qui n'est pas quelque chose qui est interdite en fait dans la Constitution, puisque c'est à la demande des propres entreprises qu'il y a eu la plupart des renégociations des contrats au Pérou. Donc c'est pas quelque chose qui va violer en quelque sorte des règles constitutionnelles, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, comme ça a été mentionné pour le cas du Chili, qui négocie actuellement une taxe au surprofit, puisque commencer les prix du cuivre et maintenant au-delà des 4 dollars la once. Et donc, dans le cas du Pérou possible, c'est ce qu'il propose Pedro Franque. Donc, c'est par rapport à ces 9 milliards de dollars additionnels qui signifient cette hausse extraordinaire des prix du cuivre. Il propose plusieurs alternatives qui ne sont pas encore définies. Ils sont en train d'être négociés avec les secteurs privés. Et Pedro Franque s'est réuni avec déjà les présidents de la Confieb, s'est réuni.
La Confieb, c'est le patronat.
Le patronat péruvien. Et donc, il a très clairement précisé qu'il ne s'agit pas de créer des entreprises publiques à tout bout de champ, qu'il s'agit plutôt de donner un nouvel élan à l'investissement privé. Et il ne s'agit pas de nationaliser, il ne s'agit pas de contrôler des prix. Donc, il y a tout un virage, disons, plus centré sur une gestion qui est plutôt la gestion.
Je vous interromps, Javier Herrera, j'entends votre enthousiasme là. Vous allez entrer dans ce gouvernement Castillo?
Absolument pas. Absolument pas. Simplement que je pense que il faut mesurer, disons, l'évolution du programme. Ils sont pas des programmes écrits sur le marbre, mais sont des programmes qui vont évoluer en fonction justement des alliances, comme ça a été mentionné. Et la grande inconnue, c'est à quel point cette alliance avec Veronica Mendoza va pouvoir tenir face à un congrès qui ne lui est pas favorable, y compris dans son propre parti.
Alors, on va repartir sur le terrain. L'exploitation minière est un des rares secteurs dont l'activité n'a pas été interrompue pendant la pandémie et les confinements successifs qu'a connu le Pérou. Pourtant, quand on regarde les zones avec les plus forts taux de pauvreté, les 5 régions en tête du classement abritent toutes d'importants projets miniers et disposent de budgets parmi les plus élevés du pays. Alors, comment expliquer ce paradoxe? C'est un reportage Éco-d'ici-Éco d'ailleurs, signé Viloen Munoz Boileau, dans la région de Caramarca, dans les Andes, au nord de Lima, une région qui vous est chère, Marie-Esther Lacuisse. Écoutez ce reportage.
Caramarca, à près de 1000 km au nord de Lima. Cette région des Andes est connue pour sa production agricole, son fromage et ses produits laitiers de renommée nationale, mais aussi et surtout parce qu'elle abrite Yanacocha, la plus importante mine d'or d'Amérique du Sud. Pourtant, c'est dans cette même région que se trouvent 16 des 20 districts les plus pauvres du Pérou. Anguilla est l'un d'eux. Pour y accéder, pas de route, mais des sentiers accidentés à flanc de montagne. Dans ces hameaux, loin de tout, les habitants survivent comme ils peuvent, grâce à leurs terres, comme nous l'expliquent ces deux femmes assises devant chez elles, face à une bâche en plastique où sont étalés quelques légumes.
Nous sommes des agriculteurs, nous vivons de notre maïs, de nos pommes de terre. Mais là, comme vous le voyez, on vend très peu.
Regardez, ma sœur, elle doit travailler 4 jours pour gagner quoi? 10, 20 soles? Avant la pandémie, on allait vendre nos produits en ville, à Tacabamba. Mais maintenant, ce n'est plus possible.
Cette agricultrice de 78 ans, qui a travaillé toute sa vie dans les champs et ne touche pas de retraite, nous explique que les habitants ont recours au troc pour survivre. Ici, la pandémie a accentué un peu plus les difficultés de la population, qui s'en sortait déjà difficilement, et a renforcé leur sentiment d'injustice et d'abandon, comme en témoigne ce commerçant du district d'Anguilla.
Ici, le niveau d'éducation est faible. La santé, c'est pareil, on n'a pas de service de santé, on n'a pas d'eau courante. On a régulièrement des coupures de courant et pas de connexion Internet. On se sent victime d'une arnaque parce que Caramarca est une région riche en minerais. Mais nous, on vit dans l'extrême pauvreté.
Caramarca est en effet la région avec le taux de pauvreté extrême le plus élevé du Pérou, alors que c'est ici qu'est produit un quart de l'or du pays et que l'activité minière de la région a généré plus de 3 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Un paradoxe que Victor Cabrera, enseignant et dirigeant local, impute à la législation péruvienne et à la corruption.
70% des bénéfices de l'activité minière vont dans la poche des entreprises, contre seulement 30% pour le Pérou. Et de ces 30%, seule la moitié est réellement investie dans des infrastructures publiques, car l'autre moitié part dans la corruption.
Par ailleurs, le gouvernement central ne reverse que la moitié des impôts payés par les industries extractives aux localités qui les hébergent, et l'utilisation de cet argent est limitée, comme l'explique César Flores, économiste et membre de l'ONG péruvienne Cooperación.
Cet argent qui arrive dans les poches des régions et des communes peut être uniquement dépensé dans des infrastructures publiques, des routes, des écoles, des ponts, mais il ne peut pas servir aux dépenses courantes, à former ou engager des professeurs, des médecins ou acheter des médicaments, ce qui est pourtant indispensable pour le développement économique d'une zone à moyen-long terme. Donc oui, il y a des infrastructures, mais avec de mauvais services, et ça on l'observe dans les différentes régions minières du pays.
De plus, les projets miniers ne se traduisent que par très peu d'embauches dans les régions où ils sont implantés.
La minerie génère très peu d'emplois directs.
L'activité minière génère peu d'emplois directs. Cela représente seulement 1% de la population active au Pérou. Un certain nombre de personnes non qualifiées sont embauchées au moment de la construction de la mine, ce qui peut durer de 2 à 4 ans. Mais une fois que la mine est ouverte, il faut du personnel qualifié que les entreprises vont chercher dans les grandes villes, pas dans ces zones-là.
Résultat, de nombreux habitants des régions minières émigrent vers d'autres régions et notamment vers Lima, la capitale. Caramarca est d'ailleurs la région avec le plus fort taux de migration vers d'autres régions du Pérou.
Un reportage de Vilhoine Minos-Boileau, Marie-Esther Lacuisse, je vous voyais écouter attentivement. Ce reportage, il retranscrit une situation que vous connaissez bien, c'est-à-dire des régions minières qui sont potentiellement riches, dont en fait les populations sont déshéritées.
Oui, tout à fait. Alors, j'avais déjà du coup abordé un peu le sujet oui, tout à l'heure, sans le faire exprès, sans avancer. Mais oui, le reportage touche le bon sujet, c'est l'investissement public pour le développement local qui est très faible, puisque ce n'est que... alors, il y a ce qu'on appelle le canon minero, donc, qui est bien les 50% des taxes sur les entreprises minières, qui date de 2001. Donc ça s'est fait après la fuite de Fujimori en 2001. Et puis après, il y a le système d'investissement public qui s'est nommé à un moment le SNIP puis qui a changé de nom, où voilà, il y a des critères et c'est surtout pour les infrastructures et question développement local, s'il n'y a pas beaucoup de retour. Alors Caramarca, c'est très particulier pour deux raisons. C'était une des premières le premier territoire de l'investissement de multinationales avec la New Mond Company pour la fameuse mine de Yanacocha, la mine d'or, donc sous le gouvernement de Fujimori, avec les premières grosses affaires de corruption au Pérou. Donc la population est avertie en fait depuis les années 90. Il y a eu aussi, ils ont vécu les impacts environnementaux de la mine, puisqu'il y avait eu fin 90 une pollution au mercure. Donc c'est aussi toute l'agriculture qui peut être impactée. Il y a eu des conflits de législation. Donc il y a vraiment une mobilisation sociale qui s'est construite à Caramarca avec des leaders qu'on retrouve en politique. Alors Castillo, il n'est pas directement lié au conflit Yanacocha, mais Mirta Vázquez, qui est maintenant députée et qui est porte-parole du Congrès, est une leader sociale de Caramarca et du conflit Yanacocha. Donc là, c'est intéressant de voir une autre petite différence Caramarca et que souligne le reportage. Au sud, c'est très sec, problème de ressources hydriques, avec peu d'agriculture. La seule chose qu'a la province de Caramarca, finalement, et qui est un peu l'emploi indirect de la mine, c'est l'élevage et un peu d'agriculture, mais pas forcément avec des marchés.
Javier Herrera, vous connaissez l'Afrique aussi très bien. Oui. Cette situation d'impossibilité de profiter de la ressource minière pour les populations, c'est quelque chose qui traverse le monde. Il y a très peu de régions minières dans ces pays-là dont la population vit bien.
Oui, en effet, on constate ça effectivement dans différents continents et dans les cas particuliers du Pérou. Enfin, il y a d'une part ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce sont des investissements à très forte intensité en capital. C'est d'énormes investissements réalisés par des entreprises multinationales. Les effets ne se sont pas traduits dans une réelle amélioration des conditions de vie au-delà de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire dans l'accès des services publics, d'éducation et de santé de qualité. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des études. Il y a une étude réalisée par la Banque mondiale qui montre justement que cette distribution du canon provoque aussi des inégalités territoriales.
Le canon, on le redit, c'est les 50% de taxes.
Exactement. Ouais. Et donc on constate que, par exemple, plus loin on est du centre minier, les niveaux des bénéfices, disons, pour la population est moindre. Et en même temps, à l'intérieur même des districts qui ont bénéficié de cette proximité des mines, il y a plus d'inégalités parce que, précisément, on a attiré des travailleurs plus qualifiés qui ont une consommation ostentatoire. Il suffit d'aller à Cajamarca pour voir maintenant les changements qu'il y a eu au niveau des voitures, au niveau des commerces, etc. Et cette inégalité est une inégalité qui, aux yeux de la population, est très criante, puisqu'en même temps, la qualité des services ne sont pas améliorées par le même système d'investissement public du canon, c'est-à-dire on ne peut pas investir dans des personnels, mais uniquement dans des bâtiments, dans du ciment.
Les inégalités, c'est un mot qu'on n'avait pas encore beaucoup prononcé, Gaspard Estrada, en approche de la fin de l'émission. C'est quelque chose qui est clé au Pérou, qui s'est amplifié au fil des années.
Alors oui, clé au Pérou, clé en Amérique latine et clé dans le monde, pourrais-je dire. Et je pense que c'est en partant de cas comme le Pérou qu'il me semble que la question des inégalités doit être traitée au plus haut niveau dans le monde. Pourquoi ? Parce que on voit bien les conséquences politiques, économiques, sociales de ce schéma qui, certes, peut réduire la pauvreté. Les chiffres sont là, les statistiques ne sont pas mensongères. En revanche, on voit bien que si on ne traite pas les inégalités et si on a une politique qui est beaucoup plus multidimensionnelle et qui s'attache à réduire justement ces problèmes d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès aux services publics, eh bien on ne pourra pas résoudre de manière structurelle les problèmes de sous-développement. Et on voit bien dans le cadre de cette pandémie, puisqu'on voit bien qu'il y a eu certaines avancées sur le plan social ces dernières années, ces 20-30 dernières années, mais que ces avancées sont réversibles parce qu'elles se basent sur quelque chose qui n'est pas durable, c'est-à-dire des emplois peu qualifiés, qui ne sont pas dans le secteur formel de l'économie, c'est-à-dire qui ne donnent pas accès à des droits. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien les limites, en fait, de ce système exportateur péruvien et qui, in fine, a produit plus d'inégalités, mais aussi plus de pauvreté.
Marie-Esther Lacuisse, les inégalités, c'est la plaie du Pérou en ce moment ?
C'est le problème du Pérou depuis 30 ans, avec des écarts.
Depuis plus de 30 ans, si je peux me permettre.
Oui, depuis plus de 30 ans, ce que je voulais dire, c'est que depuis 30 ans, ça s'est accentué. Là, ça s'est accentué ces dernières années, avec justement le développement du secteur minier. Comme a pu le dire Ravière, à Cajamarca, c'est un problème. C'est-à-dire, c'est les ingénieurs avec une population qui vit en bas de l'échelle. Juste pour remettre un chiffre, tout à l'heure, je parlais de 4 millions d'emplois très divers dans l'agriculture. Dans les mines, c'est 200 000 emplois au Pérou. Donc les gens sont en attente. C'est ça, c'est que les gens étaient en attente quand il y a eu des projets miniers d'avoir des emplois qui ne sont jamais arrivés. Et ils ont l'impression d'être laissés sur le bas-côté. Et donc les inégalités, oui, sont créatrices de conflits et de crises politiques en Amérique latine, et en particulier dans cette ère géographique.
Le mot de la fin, Javier Herrera.
Oui,
je vous sens trépigner là.
Non.
Mais très, très brièvement.
Non, les inégalités ont été toujours un problème structurel au Pérou. Ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, c'est qu'il y a eu une très forte croissance et les sentiments justement des frustrations d'une population d'avoir été des invités à l'écart justement de cette croissance, et en même temps une plus forte expectative qui ont été déçues. Les inégalités ont fait un bond aussi au cours des dernières années des crises sanitaires, ce qui a mis sur les points principaux de l'agenda public justement cette discussion sur les inégalités, les façons de les réduire.
Cette émission est terminée. Merci à Jérémy Boucher de sa réalisation, de sa mise en onde. Merci à vous trois, Marie-Esther Lacuisse, Gaspard Estrada, Javier Herrera, d'avoir accepté l'invitation des RFI. Vous pouvez nous réécouter via l'application Pure Radio sur votre smartphone en vous rendant à l'onglet émission de la dite application. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Soyez au rendez-vous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI. Religion du monde.